Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je me prénomme Jean-Philippe Vézina. Je vais être votre hôte, votre MC, votre DJ pour la prochaine heure parce que c'est le début du Soul Leader Podcast. Une émission où la musique, les voyages autour du monde auront leur place, tout comme le développement personnel, le marketing et la justice sociale. Des occasions de découvrir les possibilités infinies qui s'offrent à chaque homme et femme noir de changer durablement leur destin et leur communauté. Tout ça à travers, bien sûr, des entrevues, des mini-leçons, des histoires fabuleuses d'entrepreneurs, d'artistes et de leaders d'ici au Québec et des quatre coins du monde. Aujourd'hui, en ce mercredi 21 février 2024, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, nous allons avoir notre conseil du coach. On va parler cette semaine de avoir une mentalité de marron. On va poursuivre ensuite avec notre chronique spéciale de cette émission d'aujourd'hui qui va porter sur cette journée spéciale des langues maternelles et particulièrement des langues africaines. Et pour cette occasion, j'aurai en entrevue Gaëlle Garan qui va venir nous parler justement de l'importance de transmettre et de préserver notre patrimoine à travers nos langues afro-descendantes à la prochaine génération. On va faire un bref survol de quelques activités qui vont se passer dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Alors voilà, c'est ce qui s'en vient. Je vous rappelle que vous écoutez le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et on va poursuivre en musique pour quelques minutes et on se revoit très bientôt avec notre chronique de la semaine. J'espère que vous passez une très belle soirée et je suis ici pour vous ambiancer la prochaine heure. C'est le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. We'll be right back. Alors, toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM, c'est le Soul Leader Podcast qui se poursuit jusqu'à 21h aujourd'hui, mercredi 21 février 2024. Ce qu'on vient d'entendre, c'était le morceau intitulé « Mama », interprété entre autres par les collaborations de David Walter, Denny Shine et Mr. Frankie. Et ce morceau, je voulais justement l'utiliser pour ouvrir notre chronique d'aujourd'hui qui concerne le concept d'avoir une mentalité de marron. C'est ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui pour aussi être en mesure d'enchaîner sur mon prochain sujet qui porte sur une journée spéciale qui est celle d'aujourd'hui, celle du 21 février. C'est la journée internationale de la langue maternelle. Mais avant d'entrer dans ce sujet, je vais justement vous parler de qu'est-ce que c'est avoir une mentalité de parent, de marron. Alors, juste dans le morceau d'avant, dans le morceau « Mama », justement, il y avait un refrain du morceau qui disait « Mama told me, don't never let yourself go, set yourself free ». Et tout ça, être en mesure de se libérer autant entre ces deux oreilles que plus officiellement, eh bien, c'est ce que j'appelle avoir une mentalité de marron. Alors, qu'est-ce qu'un marron? Historiquement, les marrons, ils étaient des Africains durant la traite transatlantique des esclaves, s'étant échappés de leur captivité pour former leur propre communauté. Donc, ils et elles se sont battus pour y arriver, pour pouvoir quitter la plantation, quitter la mine, quitter le joug de leur maître esclavagiste. Mais ces Africains, justement, ont décidé de s'échapper. Leur communauté que ces marrons ont créée était autonome en très grande partie et leurs membres étaient résolument déterminés à le rester. Différents noms leur ont été attribués à travers les années. On les appelait les Nègres Marrons, les Jamaican Maroons, les Moon Morn, les Seminoles Freeman, etc. Mais durant cette période, très peu d'options étaient accessibles, en fait, aux Noirs qui souhaitaient obtenir leur liberté. Il était possible d'acheter, des fois, sa liberté de son maître. C'est possible aussi d'obtenir l'affranchissement, donc d'être affranchi, ou de résister par la fuite ou par la rébellion. Donc, pour le marron, les deux premières options, c'est-à-dire pouvoir acheter sa liberté ou attendre l'affranchissement de son maître, c'était des formes de liberté sans réelle raison d'être. Donc, pour le marron, l'objectif, c'était la liberté dans le but non seulement de survivre, mais aussi de pouvoir rayonner par le maintien de sa culture. Donc, philosophiquement, le marron, c'est une personne d'ascendance africaine, mais qui refuse d'abord l'esclavage sous toutes ses formes, qui refuse de ne plus être libre de sa destinée et qui refuse d'être considéré comme moins qu'un homme ou moins qu'une femme. Je peux donner quelques exemples de peut-être de personnages assez connus dans l'histoire qui sont justement des marrons et qui incarnent cette philosophie. On connaît l'héroïne Harriet Tubman, l'américaine, qui a libéré à travers le Underground Railroad, donc le chemin de fer souterrain, qu'on pourrait appeler, ou clandestin, qui a libéré plusieurs esclaves en fuite du sud des États-Unis pour leur trouver un chemin vers le nord. Donc, Harriet Tubman fait partie de ces personnes que je considère qui a une mentalité de marron. On a aussi, aux États-Unis encore, on a Nat Turner, on a le grand orateur Frederick Douglass. Dans les Caraïbes, on peut trouver la mulâtresse Solitude. Ce sont des personnages historiques qui ont incarné ce que j'appelle la mentalité de marron. Sinon, à une échelle plus grande, la révolution haïtienne qui a donné la création de la République d'Haïti en 1804, est à ce moment-là un grand exemple de marronnage à l'échelle des nations. Et il y a différentes façons d'intégrer une mentalité de marron. Il s'agit entre autres justement d'être en mesure de contrôler son destin, contrôler l'héritage afro-descendant qu'on souhaite passer à la prochaine génération et continuer à l'incarner tout au long de sa vie. Ce qui m'amène à mon prochain sujet pour l'émission d'aujourd'hui, qui est de parler de cette journée qui est aujourd'hui le 21 février 2024, qui est la Journée internationale de la langue maternelle. Donc, vraiment l'occasion de mettre de l'avant l'éducation multilingue, qui est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel, et en particulier souligner l'apport important et l'importance de préserver les langues maternelles africaines, que ce soit que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, ou même à travers le Maghreb. Ces langues, elles ont une histoire, elles ont un patrimoine qu'il est extrêmement important de préserver. Et bien justement, cette journée du 21 février, qui en est à sa 24e édition, si je ne me trompe pas, qui est la Journée internationale de la langue maternelle. C'est une journée qui a été proclamée pour la première fois par l'UNESCO, puis adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies, et qui souligne le rôle, justement, des langues dans la promotion de l'inclusion et la réalisation des objectifs, entre autres, de développement durable. Donc, pour parler de ce sujet, particulièrement de l'importance de préserver les langues africaines, de les maintenir, de maintenir sa mentalité de marron, eh bien, il y a quelques jours, j'ai fait une entrevue avec une femme très, très intéressante à découvrir. Elle s'appelle Gaëlle Gahan. Et avec elle, eh bien, j'ai pu faire une entrevue que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais juste avant, on va y aller en musique pour ensuite enchaîner avec l'entrevue. On va écouter justement les Nègres Marrons, un groupe qui regroupe des artistes qui ont vécu en France, en Afrique, dans les Antilles aussi. Et on va écouter un morceau qui s'appelle « Quitter son pays ». Donc, c'est ce qu'on va écouter à l'instant. Ça va être suivi de la présentation de l'entrevue avec Gaëlle Gahan. Donc, vous écoutez le Soul Leader Podcast sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Et c'est moi-même, Jean-Philippe Vézina, aka DJ Mauvaise, qui va être encore votre hôte, votre DJ et votre MC jusqu'à 8 heures aujourd'hui. Alors voici « Quitter son pays », les Nègres Marrons, en musique, et on poursuit.
Chanter, dédié à laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal de quitter son pays pour aller chercher la vie. Laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, 1960, troisième vague de l'immigration. Paris, pour la plupart, fut leur choix de destination. Se séparer de son pays pour atterrir en Occident, une autre vie. Sans même savoir ce qui les attend. Afrique, via Paname, tu doutes bien que c'est pas la même. Jeté dans cette fosse qu'on appelle la jungle urbaine. Parqué dans les foyers, suivi des cités HLM. Seul contre tous pour surmonter tous les problèmes. Partir pour revenir un jour, telle est leur destinée. Bâtir un empire pour effacer cette pauvreté. Vieillir et mourir sur le sol où ils sont nés. Hey, tel est le souhait de tous ces immigrés qui ont quitté leur pays. Aller chercher la vie, laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal de quitter son pays pour aller chercher la vie, laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal, je sais de quoi je te parle en tant que fils d'immigré. Quelle galère le pater et la mater ont enduré. Avoir le cul entre deux chaises n'est pas si facile. Vouloir retourner au pays dans les moments difficiles, c'est la vie. On est plus à l'aise chez soi que chez autrui, même si là-bas c'est petit et que la misère nous envahit. Un jour, si Dieu veut, s'effaceront tous ces soucis. Y'a toujours un soleil qui apparaît après la pluie. À nous de réagir afin de changer l'avenir. Tous les malheurs du monde, l'Afrique ne doit plus subir. Va voir ce qui se passe là-bas et tu comprendras ce que je veux dire. Nos parents, pour s'en sortir, ont dû quitter leur pays pour aller chercher la vie. Laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal de quitter son pays aller chercher la vie, laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal, ça fait mal, mal, ça fait mal, mal. C'est quelques vers, un jour c'est clair. On tabachine, tabac d'escance, à la nietère. Les yeux rivés vers le ciel, j'ai la nostalgie de mon pays. À tous les immigrés, ce morceau je le dédie. L'Afrique est dans mon cœur à tout jamais. Cap Vert est dans mon cœur à tout jamais. Congo est dans mon cœur à tout jamais. Parole d'un fils d'immigré, ils ont quitté leur pays pour aller chercher la vie. Laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal de quitter son pays pour aller chercher la vie. Laisser la famille et laisser les amis, partir pour revenir mourir sur la terre natale. Hey, ça fait mal, mal, ça fait mal, mal, ça fait mal, mal.
Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Vous êtes toujours à l'écoute du Soul Leader Podcast avec moi-même, Jean-Philippe Bézina, aka DJ Mauvaise. C'est maintenant l'heure de rentrer dans notre portion chronique et entrevue. Et aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui nous parle directement de l'Allemagne et qui vient nous parler en particulier de langue africaine et de l'importance de les transmettre. Donc, j'ai réalisé cette entrevue plutôt cette semaine pour vous et on l'écoute en ce moment. Gaëlle Gahan, elle est accompagnatrice en transmission de langue, de valeurs et de culture africaine. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir Jean-Philippe.
Comment vas-tu?
Je vais bien, merci. Merci à toi de me recevoir.
Ça me fait un très grand plaisir. Donc, je souhaite qu'on passe un très beau moment à discuter, à échanger, à parler de culture, justement, de langue africaine et de pouvoir éclairer nos auditeurs sur quelques thématiques sur ce sujet. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de d'où tu nous parles en ce moment et peut-être aussi de tes origines pour mettre la table pour cette entrevue?
Depuis l'Allemagne, depuis une ville de l'Allemagne qui s'appelle Koblenz, et je suis d'origine camerounaise.
Excellent. Est-ce que tu as grandi au Cameroun ou en Europe, peut-être ailleurs dans le monde?
Alors, je suis née au Cameroun. J'ai passé une partie de mon bon enfance au Cameroun. Et puis, à l'âge de 17 ans, je suis arrivée en Belgique. J'ai fini mon cursus scolaire en Belgique, où je en relations publiques. Et après mes études, je me suis mariée et j'ai retrouvé mon mari en Allemagne. C'est pour ça que j'ai dit.
D'accord. Est-ce que votre mari, il est allemand?
Non, il est camerounais aussi.
Comme je l'ai présenté aux auditeurs, tu es accompagnatrice en transmission de langue, de valeurs et de culture africaine. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de toi, c'est en faisant une recherche sur LinkedIn et je suis tombé sur ton profil et un post que tu avais fait justement qui m'avait interpellé à propos de cette importance-là, puis des enjeux que certains adultes, certains parents peuvent avoir par rapport à cet aspect-là. Et ça me fait très plaisir de pouvoir en discuter et ça tombe extrêmement bien parce qu'aujourd'hui, on est le mercredi 21 février 2024 et c'est la Journée internationale de la langue maternelle africaine. Donc, chaque 21 février de l'an, elle permet entre autres de rappeler aux populations africaines qui se sont d'abord appropriées, qui ont eu un peu, pas toujours par choix, de voir s'approprier les langues coloniales comme le français, l'anglais, le néerlandais, l'italien, etc. Mais que c'est toujours important de célébrer les multiples langues maternelles de tous les peuples du continent africain. Et de célébrer cette diversité-là, et surtout en termes de linguistique, et surtout d'être en mesure de les préserver, ces langues. Et puis, moi-même qui suis haïtien de naissance, je crois aussi que même pour les autres langues qu'on retrouve pour les populations afrodescendantes en diaspora, il y a tout autant un besoin de les préserver et de les garder vivantes parce qu'elles représentent nos histoires, nos patrimoines, et c'est parti important de pouvoir les transmettre à la prochaine génération. Donc, pour en revenir à ton parcours à toi, Gaëlle, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire dans quelle langue maternelle t'as bercé, toi, dans ton enfance?
Ma langue maternelle s'appelle le Mudjumba, qui est une langue d'origine de l'ouest du Cameroun. Comme je l'ai dit précédemment, je suis originaire du Cameroun, mais de l'ouest du Cameroun. Et au Cameroun, on a plus de 300 langues, parmi lesquelles le Mudjomba, qui est la province de l'Ouest et du département du Ndé. Oui.
D'accord. Et est-ce que c'est la langue qui était parlée par tes deux parents?
Oui, mes deux parents parlaient le Mudjomba, oui.
Et est-ce que c'est cette langue que tu as apprise en premier ou le français a été la langue peut-être que tes parents t'ont introduit?
Honnêtement, je ne saurais te dire oui ou non. Je sais qu'avec mes parents, aussi bien en français qu'en Mudjomba, on s'exprimait. Donc,
d'accord.
Je ne sais pas si j'ai commencé à parler le français ou si j'ai commencé à parler le Mudjomba. Ce que je sais, c'est que je m'exprime aussi bien en Mudjomba qu'en français et que dans d'autres langues. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec mes parents, c'est comme un automatisme. C'est plus de Mudjomba, même si c'est mélangé avec le français. Mais c'est un peu plus de Mudjomba. Donc, je veux dire, on ne réfléchit pas. Dès que maman appelle ou bien dès qu'on se voit, c'est directement le Mudjomba.
D'accord. Puis, on parle justement de ton rôle maintenant qui est celui d'être accompagnatrice en transmission de langue, de valeurs et de culture africaine. J'aimerais savoir pour toi, qu'est-ce que ta langue maternelle représente justement pour toi?
Alors, très belle question. Ma langue maternelle représente mon identité, ma richesse culturelle, mon histoire. Voilà ce que ma langue représente pour moi.
Puis, par rapport à l'histoire des communautés qui parlent justement cette langue maternelle, est-ce que il y a des choses notoires qu'on pourrait retenir puis que tu aimerais peut-être partager par rapport à cette culture qu'elle représente, cette langue justement?
Oui, par rapport à la culture du peuple Mudjomba, c'est un peuple qualifié en fait à l'époque, hein, à l'époque de la colonisation ou à l'époque des Maquis, parce qu'il faut savoir que c'est un peuple qui a été aussi beaucoup combattu.
D'accord.
À l'époque des Maquis, ce peuple avec la particularité d'être des insoumis.
Mm-hmm. Des résistants.
Voilà. Donc, c'est vrai que le département est divisé en petits villages, en sous-petits villages, et il y a un petit village, en fait, le chef-lieu. Quand on dit département du Ndé, le chef-lieu, c'est Banganté. Alors, le Banganté, normalement, a juste été traduit en français. Mais en Mudjomba, ça veut dire Barante, donc ça veut dire celui qui a refusé la soumission. Donc c'est un peu ça. Donc je veux dire un peu résistant, un peu insoumis.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui en 2024 quand les gens du peuple Mudjomba se définissent? Est-ce qu'ils se voient toujours comme des insoumis ou des résistants? C'est quelque chose qui a tranquillement fait place à autre chose avec les années.
En fait, il y a un cliché ou bien des clichés. Des clichés dans le sens où les femmes, les femmes du département du Ndé sont considérées comme des femmes insoumises. Par contre, les hommes sont considérés comme des vantards, même s'ils n'ont rien dans la poche.
D'accord.
Donc, c'est pour ça que j'ai dit. Il y a des clichés.
Il y a des clichés. Puis, à travers ton parcours, est-ce que, outre le français et le Mudjomba, est-ce qu'il y a d'autres langues que tu as apprises au cours de ta vie?
Oui, j'ai appris l'anglais. Le néerlandais, l'allemand maintenant, l'espagnol, même si je l'ai beaucoup perdu, oui.
Donc, très polyglotte. Comment ça s'est passé pour toi, l'apprentissage de ces autres langues? En fait, déjà, je te lève mon chapeau pour maîtriser déjà presque cinq langues. c'est déjà un certain exploit. Puis comment ça s'est passé pour toi, justement, l'apprentissage de ces autres langues?
Je dois avouer que j'ai toujours été fascinée et passionnée par les langues. Mais maintenant, à l'époque, c'était pas forcément les langues occidentales. D'accord. C'était des langues camerounaises. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-mère, à elle seule, parlait plus de 6 langues. Mm-hmm. Et moi, ça me fascinait. Ça me fascinait tellement de voir comment, lorsqu'elle arrivait d'une communauté à une autre, elle pouvait se fondre dans la masse puisque elle pouvait s'exprimer et voilà, je veux dire communiquer avec les personnes de cette communauté-là dans leur langue. Moi, je trouvais ça tellement waouh. Pour moi, c'était toujours l'effet waouh de voir comment je l'appelais affectueusement mon petit caméléon parce que c'est oui. C'était en fait, je sais pas comment exprimer ça, mais pour moi, j'étais toujours émerveillée.
Il y a de quoi? C'est probablement, je n'ai pas connu ta grand-mère, mais c'est probablement quelque chose qui a permis de se faire connaître bien au-delà de sa propre communauté. Et probablement aussi de faire en sorte qu'on se rappelle d'elle.
Oui. Oui, mais surtout, comme je dis, pour juste renchérir en disant que lorsque je suis arrivée en Belgique, à un moment, j'ai dû vivre en région flamande, donc d'où mon apprentissage pour le néerlandais. Mais cette petite guéguerre entre francophones et flamands, elle était de bonne guerre, mais sur le plan linguistique, moi, ça me faisait, en fait... Ça me faisait rire et ça m'émerveillait en même temps. Pourquoi? Parce que chacun était fier de sa langue et de son identité. Personne ne voulait baisser les bras. Dans le sens où, lorsque pendant des stages ou alors des réunions, que vous avez francophones et néerlandophones dans la salle, ils communiquent, mais chacun en sa langue.
Chacun sa langue.
Chacun sa langue. Donc, personne ne voulait se plier à parler la langue de l'autre, chacun s'exprimait en sa langue. Et moi, ça m'a, en fait, à chaque fois que je voyais ça, je me rappelais de mon papa, parce que lui aussi, il comprenait d'autres langues, mais il n'exprimait qu'en sa langue. Donc, je veux dire, il arrive dans une communauté, tu lui parles dans ta langue, il te comprend, mais lui, il te répond en sa langue.
D'accord.
Cette fierté de la langue, lorsque j'ai eu mon premier enfant, je vais rappeler que ma fille est née. Elle est née en Belgique. Donc, pour moi, c'était comme ma mère ou bien mes parents l'ont fait avec moi. C'était naturel de parler ma langue maternelle dès le berceau. Déjà, la réaction de mes cousines m'ont assez surprise. Je veux dire, mes cousines qui étaient là ou bien d'autres mamans qui étaient là. Elles étaient stupéfaites et m'encourageaient. Bon, pour moi, c'était normal. J'ai grandi dans ça. Donc, pour moi, c'était normal que je transmette ce que j'ai reçu à mon enfant. Donc, qu'elle grandisse avec, peu importe là où elle est née, où elle se trouve... elle doit avoir cet héritage linguistique, pas seulement culturel, mais aussi linguistique. Lorsque je suis arrivée en Allemagne et que je fréquentais la communauté afro, il faut comprendre qu'avec ma fille à cette époque, elle ne parlait pas encore, elle ne parlait pas que ce soit le français ou... En fait, elle ne parlait aucune langue.
D'accord.
Mais je parlais principalement avec elle. en Medjumba. Donc, je veux dire, pour moi, je n'avais pas de lieu ou de moment spécifique pour parler avec elle en Medjumba. Alors, les autres afros de la communauté étaient tellement émerveillés et stupéfaits à me demander que, mais comment est-ce possible, comment est-ce que j'y arrive, comment est-ce que ça se passe. Pour moi, c'était normal. Jusque-là, c'était un truc naturel. Je comprenais pas pourquoi eux, ils n'y arrivaient pas. Bon, donc quand ils me disent, oui, tu sais, l'allemand est difficile, vraiment, et puis avec le cursus scolaire, c'est compliqué, on n'y arrive pas.
D'accord.
Mais après, moi, j'étais surprise parce que je me suis dit, les enfants, de nombreux enfants afro ici en Allemagne, même le français, ils parlent pas. Ils parlent seulement allemand. Alors, tiens, je me suis dit, ben, il y a un problème. Il y a un problème. Je veux dire, comment se fait-il que, même si on vous met une pression sociale, que vous puissiez vous régner autant et embrasser simplement la langue d'autrui?
Oui.
Bref, au départ, c'était pas. Voilà, pour moi, je me suis dit, chacun élève son enfant comme il veut. Et puis voilà, la vie continue. Mais au fur et à mesure des rencontres, des rencontres que je voyais des parents différents et tout, qui étaient, comme je dis, ça créait toujours de l'engouement, ça créait toujours. Voilà, comment je dirais, bref, de l'engouement, quoi, autour du fait qui, pour moi, était un truc banal et normal. Mais pour les autres, c'était du « waouh ». Alors, certains parents sont venus me demander quelles sont mes astuces, est-ce que je peux les aider. D'autres m'ont remercié parce qu'ils ont dit qu'ils ils essayaient, mais comme ils se sentaient seuls, à un moment... ils ont un peu relâché. Donc, le fait de me voir, ça les a encouragés. Parce que le monsieur en question m'a dit que lui, il n'y a que lui qui parlait la langue à ses enfants, sa femme, non. Donc, parfois, c'était compliqué, c'était dur. Il abandonnait presque. Donc, le fait de me voir le faire avec ma fille, l'a reboosté pour qu'elle puisse continuer. Donc, de fil en aiguille, des gens sont venus à moi ainsi, et puis c'est là où j'ai pensé à mettre sur pied mon académie en ligne de langue africaine. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas si ça peut aider? Et surtout quand je voyais ces enfants, je me disais que c'est une génération perdue, c'est une génération future perdue, parce que quoi qu'on dise, on doit s'intégrer, mais on ne doit pas s'oublier.
Tout à fait.
Malheureusement, la société a fait croire, et surtout pour nous, cette descendance, en fait, les afro-descendants, nous ont fait croire que nous devrons nous intégrer au point de nous oublier. Donc, c'est un peu comme ça qu'est née Nyanava Academy. Et au fur et à mesure, en fonction des différents cas que je recevais dans mon académie, que j'ai décidé de créer cette partie accompagnement pour mieux résoudre les besoins spécifiques des parents. Parce que il y a différents cas. Il y a des parents qui ne parlent pas.
Qui ne parlent pas.
Et donc, ils ne savent pas comment transmettre à leurs enfants. C'est clair qu'il faut passer par l'académie pour apprendre. Soit pour apprendre avant de transmettre, pour des jeunes parents peut-être qui n'ont pas encore d'enfants, pour des parents qui ont des enfants, peut-être à faire des cours de famille avec des enfants, ou alors certains qui te diront, oui, mais moi, je connais parler, mais je ne sais pas comment je veux transmettre. Ça, c'est un autre cas. Ou encore, j'ai des bases, mais je ne veux pas, parce que je ne veux pas transmettre, parce que je n'ai que des bases, je ne connais pas. Donc, je veux dire, au cas par cas, pour ne citer que ceux-là, en fonction de ça, je me suis dit que même s'il y a ceux qui prennent des cours, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire pour ces parents-là, pour essayer de les motiver, de les accompagner pour leur, voilà, pour encourager cette transmission pour ces enfants-là. Parce que je me dis, pour nous, nous choisissons parfois quoi transmettre. La danse, ok. La nourriture, ok. Mais en ce qui concerne la culture et la langue, ça devient problématique. En fait, problématique, peut-être c'est un bien grand mot, mais
c'est un défi.
Voilà, il y a des réticences.
Puis, je serais curieux justement par rapport à la méthode ou la façon que tu accompagnes ces parents, considérant qu'il y a des centaines de langues africaines et bien que tu en maîtrises beaucoup déjà de langues, comment fais-tu pour accompagner des parents de différentes origines afrodescendantes dans ce processus-là justement de vouloir transmettre leur langue?
D'accord. Mon académie, comme je dis, mon académie qui est en ligne, oui. Je travaille avec des enseignants du continent, des enseignants du continent africain qui sont diplômés dans la langue. Parce que je me dis, c'est pas parce que tu parles ta langue que tu peux l'enseigner, parce que là, c'est déjà l'enseignement, ce n'est plus la transmission. C'est, d'accord. En fait, là, quand on dit enseignement, il faut être pédagogue. Donc, ça veut dire que si tu es de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud ou l'Afrique de l'Est, que tu me contactes ou bien qu'il faut que je crée un cours pour toi, pour vous, pour un groupe. Et si on tombe d'accord sur des modalités, parce que j'insiste dessus, puisque au départ, ce que je faisais, c'est qu'on me contactait. Je trouvais le professeur, mais par après, il n'y avait rien de concluant. Donc, ce qui fait que maintenant, je dis, c'est clair que j'ai mes cours standards qui sont là, mais je ne suis pas fermée. Je peux créer un nouveau cours, mais à l'avance... le client aussi doit s'engager.
D'accord.
Bon, donc ça veut dire que si tu viens, comme je disais tantôt, peu importe ton pays d'Afrique, parce que je parle toujours de l'Afrique subsaharienne, pour l'instant, qui sont majoritairement mes clients, l'Afrique oui. subsaharienne, si c'est que ta langue est dans mon programme de cours, il n'y a pas de problème. Mais si ta langue n'est pas dans mon programme de cours, si nous tombons d'accord, on crée un cours et puis qui s'adapte à ton horaire. Et oui, en fait, à ton horaire. Okay. Bah maintenant, si tu parles ta langue, comme je l'ai dit, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement tantôt, ça peut être un accompagnement privé ou accompagnement de groupe. C'est vrai que c'est une formule que je veux lancer bientôt. Un accompagnement de groupe pour les parents, parce que les parents qui sont un peu éparpillés, parfois il y a un manque de motivation, un désespoir et tout. Donc, en voulant créer cet accompagnement de groupe, c'est avoir un espace entre parents désireux de transmettre leur langue maternelle à leurs enfants, qui ont parfois besoin d'énergie, qui ont parfois besoin de charger les batteries, qui ont parfois besoin d'échanger, je veux dire, une motivation mutuelle.
Donc, vraiment, ouais. L'idée de créer aussi une communauté de soutien dans Exactement. Ce parcours-là pour les parents.
Exactement.
Est-ce que le service qui est offert à travers l'Académie vise spécifiquement les parents ou il y a des portions du service qui s'adressent plus aux enfants à ce moment-là? Ou peut-être les deux ensemble?
Alors, à Yanava Academy, nous avons différents types de cours. Nous avons les ateliers typiquement oraux pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc, ça veut dire que ce sont des ateliers ludiques interactifs. Parce que nous savons que nos enfants perdent très vite l'attention.
Oui.
Donc, c'est pour ça que déjà, briser la glace, c'est pas évident. Pour un concept nouveau, pour un concept qui n'est pas, c'est pas vendeur, c'est pas alléchant. Donc, déjà, ça, il faut briser cette glace. Et en fonction de ça, lorsque la glace est brisée, il faut susciter à chaque fois l'envie. Donc, c'est pour ça que pour les enfants de 3 à 6 ans, nous avons les ateliers une fois par semaine, les ateliers de langue africaine oraux. Maintenant, pour les enfants à partir de 7 ans, de 7 ans jusqu'à 17-18 ans, nous avons des cours oraux et écrits, bien évidemment, qui restent interactifs et ludique en fonction des tranches d'âge et en fonction aussi, je veux dire, c'est, rien n'est chez nous, rien n'est figé. Avec nos enseignants, rien n'est figé parce que je veux dire, c'est vrai que au continent, je dis le continent africain, on a une autre mentalité, on a une autre méthode d'enseigner qui n'est forcément pas la même que sur le continent européen. Et nos enfants qui sont nés ici, on est obligé de s'adapter à eux. Donc c'est pour ça qu'en fonction du groupe que nous avons, nous nous adaptons toujours pour susciter cette envie, pour que l'enfant ait envie de revenir, ait envie de que ce soit lui qui dise à son parent que « Maman, j'ai cours la semaine prochaine ». Maintenant, nous avons des cours privés. Nous avons des cours privés. Il y a des gens qui préfèrent aller à leur rythme, avoir un suivi vraiment précis. Nous avons des cours privés. Et puis, nous avons des cours de famille.
D'accord.
Nous Super. Avons des cours de famille. Oui, nous avons des cours de famille pour des parents qui veulent parfois les enfants seuls ou bien soit ils trouvent que l'enfant est trop petit ou l'enfant ne veut pas le faire seul. Et pour le parent aussi, lui permettre de renforcer soit son vocabulaire, soit de ses expressions. Donc, ce genre de choses. Donc, voilà les différents types de cours que nous avons, que nous proposons à Yanava Academy.
Excellent. Puis pour une famille type, est-ce qu'il y a une durée en particulier? Donc, par exemple, je suis un parent, je maîtrise la langue africaine de mon pays de naissance, mais mon enfant ne l'a pas encore appris. Combien de temps je peux m'attendre à devoir consacrer à participer au cours ou peut-être à faire des exercices à la maison? Comment ça se passe généralement pour les parents de ce point de vue-là?
C'est une très belle question parce que je dirais que c'est au cas par cas.
D'accord.
Au cas par cas. Parce que les intelligences ne sont pas les mêmes. Mmh. Les façons de comprendre ne sont pas les mêmes. Et aussi, les aptitudes des enfants ne sont pas les mêmes. Maintenant, l'accompagnement du parent n'est pas le même. Quand je dis l'accompagnement du parent, ça veut dire que c'est pour un parent, par exemple, c'est pour un parent qui parle, d'après ton exemple. C'est pour un parent qui parle déjà, mais qui ne sait pas comment transmettre. Maintenant, il y a d'autres parents qui ne parlent pas du tout. Donc, je veux dire, donner une date précise, une période précise, serait biaisé, serait raconter des histoires. Et moi, je ne suis pas là pour... c'est vrai qu'il faut vendre, mais parfois, il faut être honnête. Je préfère rester avec 5 clients fidèles que d'avoir 10 clients qui ne reviendront plus.
D'accord. Excellent.
Oui.
Puis... En ce moment, les familles, les parents qui participent aux activités de l'académie, est-ce qu'ils viennent principalement de l'Allemagne ou le territoire couvert par les services vont au-delà?
Non, pas du tout. J'ai des clients belges, j'ai des clients, en fait, quand je dis belges, des clients qui vivent en Belgique, des afro-descendants, que ce soit des parents métissés, des afro-descendants qui vivent en Belgique, en Allemagne, au Canada. Et en France.
Donc, il y a des gens du Canada qui connaissent déjà les services de l'Académie. Donc, c'est très bien pour les gens qui nous écoutent ici sur le live de la station diffusée à Montréal. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, Gaëlle, elle prend des clients, elle répond à vos questions, même d'ici au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique. Super. Donc, je vais prendre un moment au cours de l'entrevue pour parler justement de cette journée qui est celle d'aujourd'hui, du 21 février, journée où on souligne justement la culture linguistique à travers cette journée spéciale, journée internationale de la langue maternelle. Je l'ai introduite un petit peu, j'ai parlé que elle était officialisée par l'UNESCO. Est-ce que tu aimerais partager d'autres éléments à propos de cette journée spéciale qu'on célèbre aujourd'hui?
Oui, parce que nous voyons que plusieurs langues malheureusement disparaissent. plusieurs langues sont en voie de disparition. Et je pense que depuis des années, l'UNESCO a mis ça sur pied pour encourager des parents à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants, afin qu'elles puissent vivre. Dans d'autres communautés, ça se fait normalement, mais malheureusement pour nous, nous devons encore éduquer notre peuple. Je pense que peut-être à cause de notre histoire, nous devons éduquer nos peuples sur l'importance de cette transmission, parce que pour eux, elle est banale, elle n'est pas luxueuse, elle n'est pas glamour, elle n'a pas d'avantage économique, elle n'a pas, je veux dire, ça ne rapporte pas. Pourtant, c'est tout le contraire. C'est malheureusement tout le contraire. Donc, je dirais que je ne peux qu'encourager des parents en ce jour de, comme je dis toujours, intégrez-vous dans vos différents pays, mais ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas qui vous êtes, n'oubliez pas vos origines, mais surtout, transmettez-les, ne transmettez pas simplement ce qui vous arrange, ou encore, comme on aime toujours me dire, c'est l'enfant qui décide. L'enfant décide quand ça vous arrange, et c'est vous qui décidez lorsque ça vous arrange aussi. Donc, je pense que si vous décidez de transmettre cette langue à vos enfants, vos générations futures, elle ne pourra qu'être bénéfique pour vos générations futures et votre langue pourra vivre à travers vos futures générations.
Est-ce que dans ce contexte-là, où aujourd'hui c'est une bonne journée pour réfléchir, se poser des questions, est-ce que tu aurais quelques conseils, outre le fait de ne pas s'oublier, à donner à des parents qui se questionnent par rapport à la transmission des langues, à la transmission des valeurs, quels premiers gestes ils pourraient faire pour commencer à se poser les bonnes questions ou pour s'en aller vers un parcours qui va être bénéfique pour eux et les générations de leur lignée.
Maintenant, je vais être peut-être un peu crue.
Oui.
Envers nos personnes, la communauté, je veux dire, qu'ils comprennent qu'une langue... Une langue, c'est un outil de contrôle, c'est un outil de domination. D'accord. Informez-vous, je veux dire, vous, parents afro-descendants de la diaspora, si vous avez la chance d'être dans la diaspora, n'agissez pas comme nos parents, comme nos grands-parents dans le temps, qui sont restés au continent, qui n'avaient pas d'outils, qui n'avaient pas de moyens d'information. Je prendrai un exemple simple. On aime nous dire que parce que l'enfant ne parle pas la langue du pays de résidence ou le pays d'accueil, il sera un échec scolaire. La langue n'a rien à voir, en fait, pas n'a rien, oui, ce n'est pas à cause de la langue que l'enfant est en échec scolaire. L'enfant a son cerveau, à son rythme d'apprentissage, à ses capacités qui sont plus ou moins élevées. Donc, chaque enfant a ses facilités et a ses difficultés. Si vous voyez que votre enfant a des difficultés, jouez votre rôle de parent, cherchez à combler ces difficultés. Parce que malheureusement, de nombreux enseignants stigmatisent, beaucoup plus en France et en Allemagne, stigmatisent des parents, du fait que c'est parce que l'enfant parle la langue maternelle qu'il est mauvais en français, qu'il est mauvais à l'école. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Si vous sentez que votre enfant a des difficultés en français, en mathématiques ou quoi, apportez des cours de soutien à vos enfants, trouvez une solution, mais je veux dire, participez à l'éducation de vos enfants. Ne laissez pas les gens vous dire que c'est parce qu'ils ne parlent pas la langue du pays d'accueil que vos enfants sont mauvais à l'école.
Super. Alors, je voudrais savoir si les gens, en nous écoutant, ont développé une curiosité, parce que c'est ce que je souhaite, à vouloir en apprendre davantage sur ce que tu fais, sur ton académie à toi, Gaëlle, et comment ils pourraient justement s'embarquer vers un parcours, une épopée pour retransmettre leur langue maternelle, leurs valeurs, leur culture africaine à leurs enfants. Comment peuvent-ils te joindre et te trouver?
Alors, sur les réseaux, je dirais, il y a d'abord le site de l'académie, donc www.yanavaacademy.com. Ça, c'est l'académie en ligne. Nous avons une page Instagram sur le même nom, Yanava Academy. Nous avons une page Facebook, Yanava Academy, une chaîne YouTube, Yanava Academy. Sur LinkedIn, je n'ai pas Yanava Academy, mais je suis en personne Gaël Ngahan. Donc, si vous voulez, que ce soit sur LinkedIn, vous tapez Gaël Ngahan, vous allez me trouver. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, vous tapez Yanava Academy. Je vous répondrai avec plaisir. C'est vrai que dessus, il y a même mon, en fait, sur mes pages, il y a mon numéro professionnel. Vous pouvez me laisser un message. Même si je ne réponds pas de suite, je réponds toujours à tout le monde.
Excellent. Puis tous les liens vont être partagés sur la page du podcast, le Soul Leader Podcast, pour que vous puissiez trouver facilement justement Gaël et son académie. Ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi, puis d'explorer, puis de démystifier un peu plus l'importance justement de transmettre nos langues, nos valeurs et nos cultures africaines. Pour terminer l'émission, j'aimerais te poser la question par rapport à la culture africaine, plus au sens large. Comment vois-tu l'avenir pour la force de la culture africaine à travers le monde?
C'est une question, c'est une très belle question. Je veux dire, tout le monde sait, ou bien majoritairement, même ceux qui font semblant, que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique sera peut-être dans 10 ou 15 ans l'Eldorado de tout le monde, et tous le savent, malheureusement, sauf nous autres, peuple afro-descendant. Regardez simplement comment les autres essayent de s'approprier notre culture, de s'approprier nos langues, pour te dire, parce que si des Russes enseignent le Swahili dans leurs universités, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Posons-nous les bonnes questions. Est-ce que nous allons laisser qu'on fasse à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qu'on a fait à nos parents et à nos grands-parents de manière différente? Je m'interroge. Donc nous, enfants ou parents afro-descendants, donnons-nous des bonnes armes ou bien donnons-nous des armes à nos enfants pour qu'ils soient compétitifs pour l'Afrique de demain, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que la culture africaine sera de plus en plus mise en valeur, de plus en plus étayée, étoffée pour essayer de comprendre, pour essayer de s'en approprier, de s'en accaparer. Est-ce que ça sera fait par nos enfants ou est-ce que ça sera fait par les enfants des autres? Posons-nous les bonnes questions.
Excellent. Donc, très belle réflexion pour conclure cette entrevue avec Gaël Ngahan. Un très grand merci.
Merci à toi, Jean-Philippe. Merci pour cette opportunité, pour cette entrevue. De très, très belles questions, des questions pertinentes. Merci encore.
Excellent. Donc, je vous rappelle que cette entrevue est présentée dans le cadre des chroniques du Soul Leader Podcast. Vous êtes à l'écoute d'une émission présentée sur les ondes de CKUT 90.3 FM, ici même à Montréal. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. À très bientôt.
TD and Production Nuit d'Afrique present Women of the World Raise Their Voices. 5 special concert evenings from February 1st to March 8th. Don't miss the grand premiere. Lidl's Cameroonian Slam, Brazilian songwriter Bia Pereira, Lorraine Classen's 40-year career anniversary, The Roots Daughters Sound System, and Cora Virtuoso, Sona Jobarte. Discover the full program on festivalnuitafrique.com. This is a CKUT co-presentation.